RFI, grand reportage.
Mehdi Medeb.
Grand reportage aujourd'hui au Liban. Cette année, El Lafinul, la force des Nations Unies sur place, va célébrer les 40 ans de son existence au sud du Liban. Il y a encore plus de 11 000 casques bleus sur place. Ils ont une mission délicate, maintenir une paix fragile entre le Liban et Israël. 12 ans après une guerre entre les deux pays qui a coûté la vie à plus de 1 300 personnes, quel rôle aujourd'hui pour la Finul dans cette zone frontière avec la Syrie? Cette force a-t-elle les moyens d'apaiser les tensions régionales? La Finul, 40 ans de présence de l'ONU au sud Liban, c'est un grand reportage de Mélissa Barra.
Tous les jours, ils sont une quinzaine de soldats français à patrouiller une zone frontalière d'environ 900 km² située au sud de la rivière Litanie. Nous sommes près de Nakoura, dans la pointe sud-ouest du Liban. Au loin, une sorte de route non goudronnée, déserte et bordée d'une grille.
C'est la Blue Line. Top.
La Blue Line, la ligne bleue, c'est le nom donné à la démarcation qui sépare le Liban et son voisin Israël. D'énormes plots bleu ciel se dressent le long de ces 80 km, comme pour rappeler solennellement des années de conflit entre les deux pays. Une guerre qui sommeille depuis le cessez-le-feu signé à l'été 2006.
Bon, profitez-en, buvez un coup. Ouais.
Aujourd'hui, c'est le lieutenant Nicolas qui dirige le groupe français. À pied ou en véhicule blindé siglé ONU, il patrouille pendant quelques heures avec un groupe des forces armées libanaises, les FAL. Il se déplace en camion. Nous sommes dans une vallée et à quelques centaines de mètres de nous se dresse Israël.
Ok, good.
Great. Wonderful.
Ok, break.
Le dernier tour là-bas, tout au fond.
Les rapports trimestriels publiés par la Finul montrent que la ligne de démarcation est violée plusieurs dizaines de fois par mois par des civils.
Ok, et là il y avait des véhicules qui descendaient.
Mais les casques bleus ne sont pas là pour intervenir.
S'il y a de l'activité, en fonction de si c'est des gros véhicules ou petits véhicules, on rend compte au chef. Puis après, le chef prend une décision, savoir si on reste en observation ou si on continue la patrouille.
Les mouvements sur la Blue Line sont systématiquement signalés par la Finul à l'armée libanaise, chargée, elle, de dégager la ligne. Un protocole avec pour objectif...
Que la Finul diminue et que les FAL s'implantent de plus en plus dans la zone. Mais ça prend du temps. C'est une zone qui est assez difficile. Donc ça se fait pas du jour au lendemain et il faut travailler avec tous les acteurs, donc la population, l'armée, la police. C'est un travail de longue haleine et on y arrivera.
D'accord, vous dites que c'est une zone difficile. En quoi elle est difficile?
Par rapport à plein de choses, par rapport au passé, par rapport aux frontières qu'il y a, par rapport au groupe armé qu'il y a dans le secteur et dans les pays voisins. Voilà. Il y a plein d'acteurs qui font que ils n'ont pas tous les mêmes idées. Ok, en avant.
Jour après jour, le ton monte entre les deux pays ennemis. En avril, le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré que les chances pour qu'un nouveau conflit éclate en 2018 étaient réelles et a menacé d'une guerre dévastatrice. Au cœur de ces provocations, une formation politique armée, omniprésente dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi et surtout au sud Liban.
Là, je pense que vous faites certainement référence au Hezbollah, bien entendu. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au sud de Litanie, nous ne voyons pas de personnes du Hezbollah. Depuis notre présence ici de la mi-juillet, nous n'avons vu aucun homme armé s'apparentant de près ou de loin au Hezbollah. Oui, donc bonjour, je suis le lieutenant-colonel Frédéric Edel, je commande la FCR depuis la mi-juillet. Qu'est-ce que c'est que la FCR? Donc c'est le fer de lance de la Finul et qui intervient que quand il y a des situations d'extrême urgence qui nécessitent une intervention robuste. Et à ce titre, la France a souhaité l'armée depuis 2011 et c'est vraiment l'outil maître du Force Commander. Il y a toujours des tensions entre les Libanais, les forces armées libanaises, les forces de défense israéliennes. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça reste toujours des tensions régulières. Donc là, effectivement, c'est le poids de l'histoire. Depuis 1978, avec la guerre civile, les différents acteurs internes au Liban, les différents jeux des acteurs externes du Liban ont amené une situation de guerre civile dans ce pays. Et de ce fait, pour des raisons principalement, on va dire, entre guillemets, humanitaires, l'ONU a voulu participer à essayer justement que les armes se taisent pour apporter de la paix au Liban malgré toutes ces tensions. Donc la FINUL s'est déployée à compter de 1978. La France y a participé dès le départ. Et cette mission n'a cessé d'exister, avec parfois des soubresauts, effectivement, de l'histoire, avec des tensions qui ont parfois débouché sur des guerres, avec entre principalement Israël et le Liban, dont la dernière en date était celle de 2006, qui a vu un mois de guerre entre ces deux pays.
Le cessez-le-feu n'a pas empêché les incidents. Aux requêtes lancées par le Hezbollah depuis le sol libanais, Israël rétorque. En 2015, un casque bleu espagnol est tué par un tir de riposte à Ouazani, un village situé sur la Blue Line, plus à l'est. L'État hébreu justifie aussi ses incursions armées quasi quotidiennes dans l'espace aérien libanais par la menace que représente à ses yeux le Hezbollah. Au Liban, cette milice est loin d'être perçue de la même manière qu'en Israël. Fadi Assaf est cofondateur du MESP, un cabinet de conseil sur le Moyen-Orient.
Bien entendu, au sud du Liban, il est parmi les siens, il est dans un environnement qu'il a complètement intégré, et vice-versa d'ailleurs, et il n'est pas du tout perçu comme une force de provocation, mais au contraire une force de dissuasion vis-à-vis d'Israël et qui a protégé le sud Liban, qu'il a même libéré lorsque l'État était défaillant. Qui est totalement intégré dans le paysage politique, même social, qui a des hôpitaux, qui est au gouvernement, qui a des ministres, qui rencontrent les délégations étrangères, non tout à fait légitime, hein, il n'y a rien à dire, qui a un bloc parlementaire des plus influents et qui a d'ailleurs des alliances extra-communautaires qui ne se limitent pas à la seule communauté chiite, hein, n'est-ce pas ? Il a une alliance avec le courant patriotique libre dont est issu aujourd'hui le président de la République. Donc on est dans un environnement tout à fait différent de ce qu'on peut penser en voyant ça un peu de loin et en lui donnant la dimension régionale. La dimension régionale doit être dissociée de sa dimension libanaise quand on parle de ce conflit-là avec Israël.
À l'été 2017, l'administration de Trump a exigé un durcissement du mandat de la FINUL, Washington lui reprochant de ne pas faire assez pour empêcher le Hezbollah, allié de l'Iran, de s'armer. Résultat, le mandat reste inchangé, mais les moyens se sont élargis, comme l'explique Andrea Tenenti, porte-parole de la FINUL.
The mandate was a bit different because we were asked...
Ce nouveau mandat est légèrement différent. On nous a demandé d'accroître la présence de l'armée libanaise dans le sud du pays. En octobre 2017, elle a été rejointe par une nouvelle brigade. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec plus de soldats libanais et nous effectuons plus d'activités avec eux.
C'est près du village de Deir Kifa que se trouve la base militaire de l'armée française. Ici, on s'entraîne à maîtriser une cible avec des chiens d'intervention libanais.
Donc je suis le commandant Christophe et je suis le chef de la cellule S7. Donc ma cellule est plus en charge des entraînements conjoints avec les forces armées libanaises. Et puis naturellement, on charge tout ce qui est entraînement, instruction, interne FCR, donc interne aux forces françaises et aux forces finlandaises qui sont présentes ici sur Deir Kifa. Ce que je vois, c'est que les forces armées libanaises éprouvent un réel intérêt à venir partager ce moment. Ça peut aller de la journée à 15 jours de formation ici à Deir Kifa. Ils y trouvent un intérêt parce que déjà ce sont soit des jeunes soldats, donc qui ont une instruction parfois un peu courte, donc ça permet d'améliorer leur procédure, ou soit ils ont été au combat dans d'autres situations, et ils nous apportent, nous, une certaine expérience aussi, puisqu'ils font des choses que malheureusement, nous, l'armée française, on n'a pas automatiquement fait. Le but in fine, c'est un but gagnant-gagnant, pour que l'armée libanaise puisse gagner en autonomie, que les forces armées libanaises soient définitivement en terre souveraine, ici au sud.
Le chien aurait dû être en liberté pour travailler à l'initiative, parce que si vous voulez, entre les jambes, il ne peut pas aller sentir au pied des caisses C20 pour voir s'il y a de l'odeur.
Do another thing?
Yes, but in free. En liberté, le chien!
Le sergent Lisa orchestre un simulacre d'arrestation avec les forces armées libanaises. Au premier semestre 2018, leur unité de contre-terrorisme a effectué près de 150 arrestations, principalement des agents de groupes djihadistes comme Daesh et Jabhat al-Nusra.
Alors eux, justement, c'est un peu leur quotidien. Ils font partie d'une unité vraiment très opérationnelle. Ils font principalement des coups d'éclat, si vous voulez. Ils ont du renseignement, apparemment, donc c'est un travail de plusieurs mois. Et d'après ce renseignement, on leur dit « Ok, à tel endroit, il y a un personnel très dangereux à venir intercepter. » Donc ils ont un groupe de combat avec chacun sa spécialité, dont un personnel maître chien donc à l'intérieur. Et donc eux, d'après le renseignement, ils font des actions, c'est très rapide. Hein, c'est 2 minutes leur mission, 5 minutes après, c'est trop. Et donc ils vont intercepter cet individu. Donc justement, le fait de savoir rentrer dans une pièce, que le chien sache intercepter, sache faire des actions de recherche... Eux, quand ils y vont, l'individu est avéré et ils y vont pour le déloger, quoi, c'est sûr et certain.
Bon, déjà, je vais vous souhaiter la bienvenue dans notre équipe. Je me présente, donc je suis le major Philippe, le chef d'équipe CIMIC numéro 1. Donc aujourd'hui, nous allons nous déplacer dans l'est, exactement le nord-est de la zone. Notre mission aujourd'hui, mener un entretien à Sheba avec Monsieur le maire, quelques-uns de ses adjoints, je ne sais pas encore combien seront présents. Le but de cet entretien, premièrement, prendre des nouvelles un petit peu de la ville de Sheba, et on va déposer des kits scolaires qui feront l'objet d'une donation ultérieurement.
Je suis le capitaine Benoît, je suis en charge de commander cette mission. Donc là, vous êtes au sein d'une équipe de la coopération civilo-militaire. Leur mission, c'est de sillonner l'ensemble du sud Liban à la rencontre des autorités, de la population, pour pouvoir, dans une certaine mesure, apporter notre aide à leur quotidien, dans leur vie, à travers des projets d'infrastructure ou de culturels.
Restez extrêmement vigilants et soyez très prudents. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, moteur en route, on y va. L'appartenance politique d'une ville, d'un village, voire même d'une maison, donc d'une famille, n'est pas un tabou. Les drapeaux sont clairement mis sur les balcons et donc l'appartenance politique Hezbollah ou Hamal, du premier coup d'œil, on peut la voir tout de suite.
Hamal est l'autre grand parti politique chiite au Liban.
Comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'un village est druze ou chrétien ou musulman, chez les druzes c'est relativement simple, il n'y a aucun lieu de culte, ni mosquée, ni église. Alors que dans les villages qu'on va traverser maintenant, ce sont des mosquées. Là où nous nous rendons, à Sheba, qui est un village sunnite, il y a quelques familles chrétiennes et il y a une petite église. Donc voilà, le puzzle libanais existe partout où on se rend.
À mesure que nous descendons vers le sud, nous nous approchons de la grille qui devient ensuite un mur. Israël, à droite, a entamé sa construction polémique en avril 2018.
Là, à 20 mètres de nous, le mur qui est en construction est Israël. Et vous allez voir les premiers champs fruitiers. Ce n'est pas du tout le même habitat, le même type d'habitat. Et ce n'est pas du tout non plus la même manière de cultiver. Là, regardez, c'est flagrant. Vous avez les petits champs carrés avec différents, vous avez les pêchers, les abricotiers, tous les arbres fruitiers possibles et imaginables. Et à gauche, vous avez une belle oliveraie, bien carrée, mais il n'y a que des oliviers. Bon, ce mur n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont en train de le construire. Alors c'est un lieu où de temps en temps, il y a quelques tensions dues à la construction de ce mur, de par la présence de soldats israéliens, donc de Tsahal, qui assurent la sécurité des gens qui construisent le mur. Donc effectivement, de temps en temps, il n'y a pas eu de friction jusqu'à présent. Mais on sent bien qu'il y a une petite tension naissante. Alors, la tension, ce n'est pas du tout une tension armée, c'est la tension qui est provoquée par les troupeaux. Les troupeaux ne connaissent pas les frontières, heureusement, il reste encore ça. Mais les troupeaux se déplacent et franchissent régulièrement la blue line pour paître en Israël. Et là, effectivement, il y a des moments de tension assez compliqués. Alors compliqués pourquoi ? Ben parce que c'est très compliqué pour les bergers de récupérer leurs animaux.
Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, en fait, concrètement ?
Il y a des ententes qui sont prises avec soit des Israéliens qui viennent et qui font peur aux animaux pour les faire passer de l'autre côté. Soit je pense que de temps en temps, on nous a parlé de course-poursuite avec une chèvre rebelle. Mais bon, ce sont des tensions qui prêtent à rire, mais heureusement pour l'instant qu'ils n'ont jamais dégénéré.
En fait, c'est vraiment face à face.
Ah ben là, oui, ils sont à 20 mètres les uns des autres. Hein. Donc là, la ville de Kafer-Kela. Et ici, vous avez l'ancien poste frontière qui permettait aux Libanais d'aller travailler en Israël. Avant qu'il y ait toutes ces événements, le passage était libre. Et donc le poste frontière ici était ouvert. Alors là, pas la légende, mais l'histoire dit que c'est par là qu'est passé le dernier char israélien quand ils se sont repliés en 2006 et que depuis, ils ont tout fermé.
Dans cette région, le souvenir de la guerre reste très vif. À 20 minutes au nord de Kafer-Kela se trouve la ville de Marjayoun. En 2006, Amina et son petit frère Ali avaient 10 et 6 ans. Leur famille est un des rares foyers sunnites des environs, entourés principalement de chiites et de chrétiens. Amina et Ali vivent dans la ferme laitière de leurs parents. Après les cours, ils aident leur mère à prendre soin des vaches.
They living together. My aunt and my
Ces vaches sont à ma tante. Ça, c'était sa maison. Elle a été détruite. Tu vois, il n'y a pas d'autre maison autour. Nous l'avons reconstruite entièrement. Mon oncle était sur le toit quand ils l'ont aperçu. Tu vois ce panneau électrique ? Il était en train de le réparer. Mais un avion israélien posté là-bas l'a repéré et pouf ! Lorsqu'on est au niveau de la route, on peut bien repérer notre maison.
I remember the sound. I can't get out the sound of the boom.
Je me souviens du bruit. Je n'arrive pas à oublier ce son. Broum. Mon père et moi étions en train de manger de la crème et là, broum. La guerre avait commencé une ou deux semaines plus tôt. Et là, il nous a dit à tous qu'il fallait partir et trois ou quatre jours plus tard, l'armée israélienne arrivait jusqu'ici. Ils sont entrés chez nous, ils ont cassé la porte.
Amina dit apprécier la présence de la finule qui crée de l'animation mais aussi du travail. Elle est habituée à voir au quotidien des véhicules de l'ONU et des équipes simiques comme celle du capitaine Benoît et du major Philippe.
La raison d'être de la finule, c'est finalement d'être au milieu de deux peuples, de deux États qui ne s'apprécient pas. Et voilà. Nous, on est là pour donner un peu de nous-mêmes. Et donc, vous avez vu ce côté opérationnel, militaire, stricto sensu, et qui est la raison d'être, entre guillemets, de la finule. Quand on est là depuis 40 ans, on ne peut pas se borner à avoir juste des canons et des choses comme ça qui regardent les uns et les autres. De fait, cette composante, elle est là, pas pour compenser, mais pour faire accepter la force en tant que telle et améliorer un peu le quotidien de ces Libanais qui, depuis 40 ans, voient des camions de l'ONU qui arpentent leur village. Voilà.
Fin août 2018, le mandat de la force intérimaire de l'ONU au sud Liban a été prorogé d'un an comme de coutume. Sur place, toutes les sources s'accordent sur un point. 40 ans plus tard, l'équilibre régional reste délicat et la finule est encore loin d'un retrait. De présence onusienne au sud Liban, un grand reportage signé Mélissa Barra, réalisation Pierre Chaffangeon.